Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Emmanuel Latraverse.
J'ai pas de problème philosophique avec ça.
Mario Dumont.
Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion?
La rencontre.
Ça passe comme une lettre à la poste.
Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes.
La rencontre, Latraverse, Dumont.
Et on rejoint Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors, grosse décision qui aura quand même tardé, qui aura mené à beaucoup de discussions, tergiversations dans les dernières années. Mais là, c'est fait. Le point de presse vient de se terminer. Le gouvernement du Canada qui dit non, Huawei n'aura pas sa place pour le déploiement de la 5G au pays.
Oui, c'est une décision qui ne va surprendre personne parce que tous les grands alliés du Canada en termes d'espionnage, de surveillance avaient décidé de bannir Huawei justement à cause des craintes d'espionnage dans la technologie chinoise. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi est-ce que ça a pris 3 ans et demi au gouvernement pour se décider? C'est sûr que la question de l'enlèvement des deux Michael en Chine, Michael Kovrig, Michael Spavor, a comme mis tout ce processus de décision-là sur la glace, mais ça fait quand même 8 mois qu'ils ont été libérés. Mais on n'aura jamais une réponse à ça, parce que je peux te dire, Mario, je sais pas si t'es petit ou point de presse, mais j'ai rarement entendu M. Champagne plus scripté que ça. C'était mot pour mot, virgule par virgule, la même chose dans les deux langues.
Ouais, mais moi, ce qui me concerne, c'est une décision où c'était une analyse de recherche, de mouvement, de moment, pardon, stratégique pour en faire l'annonce. Je pense que ça fait genre 1 an, 2 ans que la décision est prise, claire, limpide dans leur tête. Là. C'est quoi le moins mauvais moment ou le moment qui minimise les dommages, les relations avec la Chine pour en faire l'annonce? Je pense que c'est comme ça qu'il faut le percevoir. Puis là, ben pendant qu'il y a eu tout le drame Huawei puis les deux Michael, ben là, on se disait c'est surtout pas le temps de toucher à ça. Là. On a assez dans notre assiette avec la Chine. Puis là, à un moment donné, il faut bien que tu l'annonces. La Russie puis l'Ukraine a peut-être un peu leur pris le centre des affaires, le centre des affaires internationales. Donc, on s'est dit, bon, on va passer la nouvelle. C'est un mauvais moment à passer. Je pense quand même qu'il faut se préparer à des représailles de la Chine. Moi, je pense pas que la Chine va passer l'éponge, va laisser passer ça. Là. Je pense qu'il y a un ou des secteurs économiques du Canada qui vont payer un certain prix en termes de représailles de la Chine.
C'est Tom Mulcair qui, à l'ajout, il y a quelques minutes, nous faisait remarquer qu'aujourd'hui, la Chine a annoncé qu'elle levait enfin l'embargo sur le canola canadien. Donc, un jour où la Chine met fin à une guerre commerciale sur le canola, 4 heures plus tard, on tire la plug sur Huawei. Donc, est-ce que le gouvernement a voulu essayer de sauvegarder l'industrie du canola avant de l'annoncer? Ça va certainement faire partie des analyses. Ce qu'il y a de remarquable dans cette décision-là, c'est qu'elle est quand même plus large que ce à quoi plusieurs s'attendaient parce que on n'interdit pas seulement Huawei puis une autre technologie, le ZTE, dans les infrastructures du 5G, mais c'est toute utilisation de ces technologies-là. Et ceux qui ont déjà des pièces, des programmes, des morceaux de ces entreprises-là dans leur système ou dans leur réseau, doivent les démanteler et les remplacer. Donc, il va y avoir une question. Moi, j'étais en onde à l'ajout. Malheureusement, j'ai pas su si la question a été posée, mais est-ce que la question de la compensation va se poser? Parce qu'il y a aussi des Canadiens qui ont des téléphones Huawei, là.
Mais ça va être encore permis, là. J'ai vu dans les manchettes que le téléphone Huawei, il n'y a pas de problème.
Le téléphone, OK, c'est ça. Mais donc il va avoir.
Mais Huawei, est-ce que
dans le bas de combat. Ouais.
Mais sur la compensation, est-ce que Huawei a déjà des sommes de dépenser dans l'implantation du réseau 5G?
Mais c'est pas tant Huawei que des
partenaires
canadiens ouais. Qui auraient. C'est quoi la part de Huawei qu'ils ont investi? C'est ça qui est pas clair. Chez TELUS et chez Bell. Je sais que chez Vidéotron, c'est avec Samsung qu'on a fait affaire. Chez Rogers, c'est avec Ericsson pour bâtir le 5G. Donc, il va y avoir des éléments à clarifier dans cet enjeu.
Ouais, mais décision quand même. Si on enlève tout ça, on oublie le timing et la politique. Quand, tout à l'heure, Vincent nous racontait avoir participé à une colloque d'experts en sécurité internationale, moi, j'en ai interviewé plusieurs.
Tout le monde est d'accord que c'est la chose à faire.
Il n'y a pas d'ambiguïté vraiment parmi les experts que c'est ça qu'il fallait faire, qu'on pouvait pas prendre le risque de laisser nos renseignements traîner d'une compagnie qui peut être en lien avec le gouvernement chinois. Même, je dirais, pour avoir questionné quelquefois des experts en sécurité internationale là-dessus, ils répondaient quasiment comme c'est pas une question, c'est une évidence.
Ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement veut ratisser plus large maintenant. T'as vu, ils vont déposer un projet de loi pour moderniser donc tous les outils légaux pour protéger l'ensemble des infrastructures critiques routières, de transport, cybersécurité, téléphonie. Parce qu'il y a des gros joueurs chinois, entre autres, dans ces industries-là aussi. Donc, c'est comme si c'est le premier pas, mais d'un immense chantier d'un gouvernement fédéral qui finit par s'attaquer à une vulnérabilité de très longue date.
Ouais. Bon. Parlons du mouvement conservateur et de Jason Kenney qui a démissionné hier, qui a eu sa majorité, mais très mince. Ouais. La COVID a quand même bouleversé le monde des conservateurs au pays, clairement.
49% des membres de ton parti qui te veulent plus comme chef, c'est étonnant.
C'est dur à gérer.
Du parti que tu as fondé.
Ouais.
Que tu as fondé et du parti que tu as porté au pouvoir dans une écrasante majorité. C'est un an d'élection, ils vendent fort, la COVID est en arrière, le prix du pétrole est à 100 quelques dollars. Là, tu décides que c'est vraiment un super moment pour faire un putsch puis radicaliser le Parti conservateur. C'est vraiment comme ça là, que tu vas gagner contre le NPD dans un an.
Ouais. Parce que les chicanes sur le masque et les mesures sanitaires, ça va avoir coûté cher. Là.
Ben, je comprends. Mais ce qui est remarquable, c'est à quel point... Puis bon, c'est le cas définitivement chez les conservateurs en Alberta, mais je pense plus largement dans l'ensemble du mouvement conservateur, c'est à quel point ça a radicalisé une branche du parti. Puis il faut le faire, là. C'est pas comme s'il y a des super rock stars dans le vent en arrière pour remplacer Jason Kenney. Là, la fronde est menée par Brian Jean, qui était un nobody à Ottawa, puis par Daniel Smith, qui avait fondé le Wild Rose.
Elle, c'est quand même une vedette un peu.
Ah, c'est une vedette de radio, mais tu sais, elle n'a pas été... Il n'y a personne dans les gens qui prétendent pouvoir faire mieux que Jason Kenney. Dans les Brutus, il n'y a personne qui a une carrière politique extraordinaire couronnée de succès délirants.
Il n'y a personne qui a gouverné rien. Il n'y a personne qui a dirigé, qui a été ministre senior. Il n'y a pas tant que ça de... Mais la question qui se pose, c'est... Moi, dans ma perception... Tu sais, il y a l'expression les Red Tory, donc les conservateurs plus progressistes conservateurs. Moi, dans mon esprit, Jason Kenney n'est pas ça. C'est un conservateur de l'Ouest, etc. Donc, c'est étonnant que même lui ait le mouvement qui se retourne contre lui, le mouvement de droite plus radical se retourne même contre Jason Kenney. C'est ça, moi, qui me jette à terre.
Oui, parce que je disais, Sean Spear, qui est un des super intellectuels conservateurs au Canada, avait une chronique il y a à peu près 2 semaines là-dessus où il disait, écoute, il est le plus grand partisan de réformes conservatrices qu'on a vu au Canada depuis des décennies en termes de gouvernement. Il a baissé les impôts corporatifs de 30%. Il a baissé toute la réglementation, là, tu sais, la paperasse, ces affaires-là de 25%. Il a libéralisé le choix des écoles parce que c'est un enjeu qui est très important pour la base sociale conservatrice. Puis c'est une façon de leur donner quelque chose au lieu de toucher à l'avortement. T'sais. Il a réussi à faire ça. Il a mis des trucs hyper innovants sur le développement économique des Autochtones, mais dans une optique conservatrice. Si c'est pas... C'est pas un gauchiste, là. C'est pas Doug Ford qui dépense sans compter. Il a équilibré le budget en Alberta. Fait que là, tu te dis, comment tu fais dans la course à la direction du Parti conservateur actuel pour que finalement, ce qui compte, c'est de faire plaisir à une base radicalisée. Puis moi, je pense que c'est comme ça de plus en plus qu'on doit interpréter la popularité de la candidature de Poilievre. Apparemment, il y a des gens sérieux qui disent, écoutez, les amis, là, faut gouverner pour tout le monde, là, faut qu'on trouve des compromis, là, mais c'est un parti qui renonce au compromis maintenant. C'est ça qui est surprenant puis qui est grave pour son avenir.
Je comprends là, qu'une partie de ceux qui l'ont mis dehors c'est des gens dont les attentes étaient par rapport à la parce que par rapport à la gestion de la pandémie, il est celui qui a pris le moins de mesures de tous les premiers ministres du Canada, qui a attendu le plus tard possible, etc., qui a été le minimaliste des mesures de restriction. Ceci dit, les personnes, ceux qui l'ont mis dehors dans leur tête, c'est une nuance. Là, entre lui puis Legault ou Ford ou un autre, là, faut mettre aucune mesure. Ce qu'il fallait faire, là, c'est pas gérer ça, la COVID. S'il y a des gens qui décèdent, ils décèdent, tant pis. On est dans un pays libre, on reste libre. Le gouvernement ne nous met aucune contrainte. Et surtout, n'encourage pas la vaccination. Au mieux, ils offrent des vaccins. Là, ils mènent une clinique à quelque part, ils offrent des vaccins, mais ils poussent pas le monde vers là. Je veux dire, c'est des complotistes. Là. Je veux dire, c'est que le complotisme n'est plus... c'est plus l'affaire de 3-4 personnes derrière leur ordinateur, là. C'est une aile au Parti conservateur. C'est une aile politique importante dans un parti qui prétend pouvoir gouverner.
Ben oui, puis ça fait donc 10 ans qu'on structure sur les conservateurs sociaux anti-avortement. Ben là, finalement, c'est plus eux qui posent menace sur l'électabilité de ce parti-là, là. Et ça va pas en s'améliorant non plus là, en termes de discours puis de direction pour la course. Là. En tout cas, je pense que ça met beaucoup de pression sur Pierre Poilievre, entre autres, là, en vue du débat en français de la semaine prochaine.
Là. Est-ce que Jason Kenney est politiquement réhabilitable? Parce que, bon, dans le Parti conservateur, dans le mouvement conservateur au Canada, c'était quand même une star. Il y en a sûrement qui pensent encore que c'est bien de valeur comme façon là, que son que son sa carrière finit, c'est que son navire échoue. Est-ce qu'il peut partir dignement puis dire bon, je suis parti dans des circonstances difficiles et revenir dans 2-3 ans version revue et améliorée?
Ben ce matin je te disais non à ton émission, mais j'ai comme pensé à ça pendant la journée puis j'ai deux mots pour toi.
Oui.
Jean Charest. Aurais-tu pensé, quand il a quitté le pouvoir, après la grève étudiante, le bordel des casseroles, des émeutes, la commission Charbonneau, tu sais, les cocktails à 100 000 ou je sais pas quoi, que t'aurais-tu pensé que sa carrière politique était réhabilitable à cette époque-là?
Oui.
Tu pensais qu'il y avait des chances de renaître, descendre comme un phénix?
Quand même. Quand même. Je suis capable de n'importe quoi, là, de tout.
OK. Mais ça, c'est pas pareil, là.
Mais non, mais j'avoue, mais c'est ça. Non, mais c'est sûr qu'on oublie ce que le temps, tu sais, que faut que tu rebâtisses. Le jour, mettons, qu'il revient, il faut qu'il rebâtisse une histoire. Puis pourquoi c'est arrivé? Pourquoi ça en 2022?
Il y avait la COVID. Si le parti est à terre pendant des années aussi, tu te dis, ah, ben, finalement, ça allait bien.
Ouais, finalement. Mais t'as amené quelque chose de bien intéressant. Tantôt, t'as glissé ça dans une phrase, puis j'ai accroché. C'est vrai qu'en plus de tout le reste pour l'Alberta, là, il y a eu des années, là, les années pandémiques, là, ça a été dur, l'économie, les finances. Mais là, il s'en vient. Il retourne, eux autres-là, aux années roses. Là. Peu importe qui gouverne, là, l'argent va rentrer dans un coffre. Ça va, avec le pétrole à 110, 112, 115 piastres le baril, l'argent va pisser dans un coffre du gouvernement. Je veux dire, tu vas équilibrer le budget.
Facile à gouverner.
Ben ouais, tu vas équilibrer le budget le soir entre le souper. Entre le souper et la game de hockey, tu vas équilibrer le budget. Là, tout va se faire tout seul. Là,
mais le pire, c'est qu'il a réussi à équilibrer le budget dans des circonstances aussi difficiles que ça. Alors, c'est. Donc, moi, je pense que, objectivement, est-ce qu'il est réhabilitable? Ça va dépendre de ce qui arrive. Si le Wild Rose s'entre. Si le Parti conservateur uni s'entre-déchire, qu'il élise un zigoto comme chef, que c'est la débandade électorale, bien sûr qu'il est réhabilitable. Parce que là, c'est pas de sa faute. Son parti, on va dire, ben, ils sont fous, ils ont mis dehors, ils auraient dû le garder, tu sais. Alors, je pense que ça va dépendre de l'avenir du parti. Ouais. Dans la prochaine année, de s'il est réhabilitable ou pas. Puis est-ce que jusqu'où est-ce que le conservateur est réhabilitable au Canada?
Ouais, jusqu'où il est suicidaire. Là. Mais la plus grande probabilité, c'est quand même, et ça étonne toujours les gens au Québec, là, mais l'Alberta a été gouvernée pendant 4 ans par un gouvernement néo-démocrate de Rachel Notley. Et la plus grande probabilité, c'est que ça va être le retour de ça dans un an. Merci, oui. Emmanuel.
Ça me fait plaisir. Au revoir.